Bonsoir à tous et à chacun. On a le plaisir de recevoir ce soir Christian Jouot, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche au CNRS, pour exceptionnellement deux ouvrages. La folie d'Artigot, publié par les éditions Olivier, de l'Olivier, et un second ouvrage qui est Richelieu et l'écriture du pouvoir autour de la journée des dupes, publié dans une collection prestigieuse, à mon avis, qui s'appelle L'esprit de la cité chez Gallimard. Monsieur Jouot, bonsoir. Si vous le voulez bien, on va débuter avec la folie d'Artigot. Et je vous laisse présenter l'ouvrage, car je ne souhaite pas venir avec mes gros sabots et venir perturber ce conte philosophique. Je pense que c'est un conte philosophique et je pense déjà en avoir trop dit. L'historien d'Artigot plonge dans le passé pour le vivre. Et nous sommes dans une sorte de champ clos avec Geoffroy Guay, qui est curé de Sainte-Croix-du-Mont, qui écrivait des poésies latines, ce qui n'est pas commun, Toulouse-Lautrec, François Mauriac, et avec en toile de fond le sanctuaire de Verdelet. Je vous laisse lancer votre sujet.
Oui, merci. Merci de votre accueil et de votre présence. J'ai vécu 15 ans à Bordeaux et d'Artigot est une histoire bordelaise.
Voilà. Exact.
C'est une histoire bordelaise et c'est une, comme vous l'avez dit, un conte philosophique. Le terme peut être considéré comme prétentieux, mais l'éditeur était lui-même assez embarrassé parce que donc, la collection dans laquelle il paraît est une collection qui est plutôt liée à la psychanalyse. Il y a une revue qui malheureusement vient de cesser sa publication, donc il faut parler au passé, qui s'appelait Pensée rêvée. Et c'est une collection donc, liée à cette revue qui est dirigée par un psychanalyste qui est Michel Gribitsky, qui a fait le chemin des éditions de l'Olivier aux éditions Gallimard, où il a repris la collection. Deux collections, une collection bien connue par les gens qui s'intéressent à la psychanalyse, qui est Connaissance de l'inconscient chez Gallimard, et il lance une collection qui porte le beau titre du principe de plaisir et dans laquelle il y aura sans doute
un titre magnifique.
Une suite d'Artigot. Bon, donc d'Artigot est une fiction, mais
non, mais vous dites c'est une fiction. Là, vous dévoilez déjà, oui, mais en train de dire que c'est une fiction.
Mais je vais m'expliquer sur ce terme fiction, parce que c'est véritablement un terme qui mérite d'être un peu déployé. Donc, c'est une fiction écrite par un historien, ce qui est dangereux, parce que les historiens sont supposés écrire des textes et des livres qui ne sont pas des fictions. C'est-à-dire que d'une part, ce à quoi ils font référence, leur référentialité, comme disent les linguistes, est censé être du côté d'une réalité passée, de la réalité. Et d'autre part, présentent des faits, ils avancent des preuves. Et donc, le rapport à la référence et le rapport à la preuve, c'est les deux dimensions qui distinguent un discours, on va dire, une écriture d'historien d'une écriture de fiction. Mais les choses sont parfois plus compliquées qu'elles n'en ont l'air, parce que on peut et on doit. Je veux dire, c'est à la fois une question de morale, d'honnêteté, donc, et c'est aussi une question, comment dire, de politique du savoir, en quelque sorte. On doit établir une frontière, absolument, entre ce qui est fiction et ce qui n'est pas fiction. Mais le propre des frontières, c'est d'exister comme séparation, mais d'exister aussi comme ce qui réunit. Les frontières se franchissent. Toutes frontières se franchissent. les frontières se gardent et parfois les frontières se tiennent, comme on dit, et parfois on n'arrive pas vraiment à les tenir. Et il y a souvent chez les historiens une sorte de, bon, comment dire, j'allais dire d'hypocrisie, ce serait désagréable, mais de malaise à l'égard de ces franchissements de frontières. Parce que faire un récit de choses qui ont existé, qui ont eu lieu, advenu, dont on peut prouver qu'elles ont existé, c'est très important de le prouver. Faire un récit, c'est quand même flirter avec un mode d'expression, un mode d'écriture qui est aussi celui de la fiction. Alors, c'est là que se produisent parfois des franchissements de frontières. Alors maintenant, j'en viens à dire ce que j'entends par fiction. Alors, une fiction, c'est tous, fiction, les romans, c'est des fictions. Si on va dans une librairie anglaise ou américaine, on voit que les livres sont classés en deux catégories, fiction, non-fiction, fiction, pas de fiction. Bon. Donc, la séparation est évidente dans notre réaction spontanée. Et pourtant, quand des chercheurs... Dans un laboratoire, je ne sais pas, des biologistes, des entomologistes, en fait, tout ce qu'on voudra, des chercheurs de sciences dures. Quand des chercheurs dans un laboratoire recréent artificiellement les conditions de vie d'un animal ou recréent un milieu artificiel de manière à pouvoir réaliser des expériences et observer le résultat de ces expériences, ils créent une fiction. Il crée un terrain qui n'existe pas, mais qui va être utile pour produire des observations, des analyses, des commentaires, des résultats qui, eux, n'appartiennent pas à la fiction, puisqu'ils peuvent permettre, je ne sais pas, de guérir des maladies, de trouver un nouveau produit, etc., etc. Mais la démarche même est fictionnelle. Une expérience est une fiction. Et dans ce livre sur... D'Artigo, il y a cette sorte de mélange constant entre la fiction comme un roman hein, et la fiction comme terrain d'expérience. Et ce mélange, il commence par exister pour ce personnage que j'ai appelé D'Artigo lui-même, puisque cette histoire commence avec une expérience qu'il veut réaliser, qui est une expérience peut-être naïve, qui consiste à... c'est un historien, et il veut s'immerger dans le passé dont il veut écrire l'histoire. Exactement. Et il propose un protocole d'expérience à une grande institution de recherche qui finance sa recherche. Et,
dont il est le seul directeur.
Oui, donc il est le seul directeur. Ça, c'est le petit clin d'œil pour souligner la dimension fictionnelle de cette entrée en matière. Donc, il propose une expérience qui consiste à s'enfermer dans une maison, dans un lieu proche de Bordeaux, à Sainte-Croix-du-Mont, qui est très proche d'un lieu de vie d'un personnage qu'il connaît bien, qui était le curé de Sainte-Croix-du-Mont au XVIIe siècle, et de s'enfermer dans des conditions telles qu'il n'a plus le moins possible de contact avec le monde extérieur, et il est simplement avec ses archives et dans un appareillage autour de lui, des conditions de vie tout à fait donc anachroniques par rapport au XXe siècle dans lequel il vit, par son éclairage, il a pas de montre, il a pas de radio, il a pas de télévision, il reçoit pas les journaux, etc. Il est séparé du monde pour s'immerger dans le passé. Donc c'est l'expérience possible, mais c'est une expérience qui tourne mal, puisqu'on retrouve un jour ce malheureux inanimé, et que ça le conduit, enfin je ne vais pas tout raconter, mais ça le conduit dans une expérience, de une autre sorte d'expérience, mais celle-ci émotionnelle et vitale, en quelque sorte, de délire et de séjour en hôpital psychiatrique, où un certain nombre de choses remontent, il écrit, il produit des textes dont des traces éparses ont été conservées par les gens qui l'ont soigné. Et puis, il change du tout au tout de rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il était possible de s'immerger dans le passé pour avoir un contact intime avec ces ombres disparues qui le hantent, de ces hommes du passé, que donc il y a une sorte d'opération à la fois nostalgique et productrice de savoir, donc. Et il change du tout au tout en se livrant à une activité qui relève de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ergothérapie. C'est quand on fait faire des travaux aux malades pour qu'ils recouvrent un certain nombre, une sorte d'équilibre, ou qu'ils sortent d'un état de crise. Et pour lui, l'ergothérapie, ça consiste à restaurer un vieux bicycle qui traîne dans une annexe de l'hôpital. Et à partir de là, il construit ou reconstruit toute une théorie de l'histoire et du rapport au passé, fondée au contraire non plus sur l'immersion, la proximité, mais sur la séparation radicale et sur la reconstruction, la froideur nécessaire, l'écart préalablement construit avec les objets sur lesquels on travaille. Et toute sa carrière ensuite, tout son travail, il est universitaire, et il a des engagements qu'on pourrait dire civiques, justement, dans ce coin de l'entre-deux-mers qu'il connaît bien pour y avoir grandi. Et il construit un rapport au monde, une activité fondée, et c'est une position, comment dire, idéologique, en quelque sorte, et intellectuelle et pratique. Il construit toute sa pratique sur l'idée de cette séparation. Comment peut-on parler du passé en étant complètement séparé? Pour cela, il développe un certain nombre de procédures fondées aussi sur... c'est un homme très pieux, sur un engagement religieux fort. Et il développe une théorie de la séparation. Et son action se passe pour partie dans cette petite ville, ce sanctuaire que vous connaissez tous, je suppose, ici, qui est Verdelet. Donc. Et là, on sort de la fiction. Parce que à Verdelet, il y a, de manière très saisissante, plusieurs lieux qui se rencontrent, qui se croisent, qui sont présents. En un lieu, il y a plusieurs lieux qui sont présents. Et en particulier, il y a le sanctuaire de Verdelet, bon, un sanctuaire marial très ancien. Bon. Il y a la maison où d'Artigot a grandi, qui est au bord de la Garonne, ce tout petit hameau au bord de la Garonne qui s'appelle la Garonnelle, qui était autrefois le port par lequel arrivaient les pèlerins à Verdelet. Et puis, à un jet de pierre, il y a Malagar, la maison de François Mauriac. Et puis, il y a le lieu où vivait ce curé du XVIIe siècle qui écrivait des poèmes. Et puis, il y a une autre maison qui existe, ou plutôt qui existait, qui est aujourd'hui totalement, complètement en ruine, qui appartenait à un géographe qui s'appelait Paul Schrader et qui était, au tout début du XXe siècle, le responsable de la géographie chez Hachette, et qui a écrit, en particulier sur les Pyrénées, un grand livre à l'époque, et qui a organisé la publication d'un très grand nombre d'ouvrages. Et cet homme, Paul Schrader, était était tout à fait partie prenante d'un mouvement qu'on peut décrire comme étant la naissance des sciences sociales. Pour dire ça vite, pour lesquels la géographie a joué un rôle très, très important.
Il était habité.
La sociologie en particulier. Et il était le beau-père d'un homme qui s'appelait Paul Fauconnet, qui était un grand sociologue français de la naissance de la sociologie. Et là se rencontraient un certain nombre de gens appartenant à des générations différentes, les reclus, Marcel Mauss, l'anthropologue, Élie Faure, le critique d'art, et tous ces gens-là, et entretenant par ailleurs plus ou moins les liens de cousinage, d'ailleurs. Bon. Et donc, j'ai utilisé d'Artigot pour traverser cet espace et pour organiser la rencontre qui n'a jamais eu lieu entre le Malagar de Mauriac, la maison Schrader, le prêtre du XVIIe siècle et cette figure cette figure de D'Artigot qui traverse ces paysages. Et puis alors, j'allais oublier qu'il y a un autre personnage tout près de Verdelet et qui joue un rôle aussi dans ce livre, qui est Henri de Toulouse-Lautrec.
C'est mal mort.
Henri de Toulouse-Lautrec, qui est enterré dans le cimetière de, j'allais dire comme D'Artigot, dans le cimetière de Verdelet. Et Don Mauriac nous dit qu'elle avait laissé dans son château, qui appartenait à sa mère, en fait, qu'il avait laissé un grand nombre de peintures et de dessins, mais qu'après sa mort, c'est qu'il est mort très jeune, après sa mort, sa mère a trouvé ses dessins, ses peintures inconvenants et a tout détruit. Et donc une partie de l'œuvre de Toulouse-Lautrec s'est envolée, a disparu comme ça pour au nom des conceptions morales de cette vieille dame. Alors voilà, j'ai voulu faire communiquer tout cela et développer à partir de là une sorte de réflexion sur l'écriture de l'histoire, ses impasses, ses folies, sa volonté de puissance, et avec une réflexion sur quelque chose que j'appelle l'ombre ou les ombres.
Les ombres.
En observant qu'à la fin de cette histoire, mon D'Artigot, pratique en quelque sorte une sorte de culte secret de l'ombre mère, si on veut, de l'ombre du passé qui le tient, dissimule complètement ce rapport à l'ombre mère et a pris soin dans ses écrits très secs, très, très érudits, très militants aussi, a pris soin d'évacuer toutes les présences humaines, on peut dire, qui pourraient être assimilées à des ombres nostalgiques. Voilà, peut-être c'est une première présentation.
Ah, je trouve que
presque une lecture.
Je n'aurais pas osé interpréter autre chose. Merci beaucoup. On va passer au Richelieu et l'écriture du pouvoir autour de la journée des dupes. Alors, là, votre ouvrage il nous invite à, comme le définit Jean-Paul Aron, recueillir l'écho des langages indistincts opérés dans l'événement, le partage de ce qu'il déclarait au présent et chuchotait au futur. Et je trouve que c'est ce que vous notez dans votre présentation. Je trouve que l'enjeu est assez clair. Et vous tenez à nous faire part de l'importance des actes d'écriture dans la puissance et la puissance en regard des déflagrations des événements. Je vais vous dire, c'est pas dans mes habitudes de saluer toujours l'œuvre des auteurs que je présente, mais je trouve que votre ouvrage est d'une richesse infinie. Moi qui fréquente les livres anciens, vous nous invitez à étudier la rencontre entre les écrits et le pouvoir politique. Et je vais vous dire, je découvre votre travail que je ne connaissais pas. Je bats ma coulpe, je vous assure, je ne le connaissais pas. C'est dire l'étendue de mon incompétence. Mais puisqu'on parle d'incompétence, est-ce que vous voudriez nous rappeler les événements, ce que Guillaume Baudru, le comte de Serran, qui était faiseur de bons mots d'après Talmont des Réaux, a appelé la journée des dupes. On va commencer avec ça. Et ensuite, vous nous expliquerez aussi qu'est-ce que c'était que le grand orage, parce que c'est quand même un des débuts et c'est une des bases de votre livre.
Alors, une des bases de mon livre, c'est de prêter attention aux mots.
Exact.
Et de prêter attention aux mots, je dois dire que
Et les écrits, surtout.
Les écrits, et les mots qui sont dans les écrits, puisqu'on n'a pas d'autres mots du passé que ceux qui sont dans les écrits, enfin, pour le passé ancien, en tout cas. Faire attention aux mots... C'est un souvenir scolaire, en fait. C'est-à-dire, ne sais pas, mais quand j'étais en troisième, je crois, on étudiait l'histoire de la France du 16e, jusqu'à la Révolution française à l'époque. Maintenant, les élèves, ils font ça. Il y a une leçon sur toute la période. Bon, passons, c'est comme ça.
Ils balayent.
On va pas, c'est comme ça. Donc voilà, et je me rappelle avoir été saisi par cette expression. J'en ai des dupes. C'est trouvé à la fois bizarre. Dire, il y a quelque chose qui accrochait l'attention. Un truc. Et puis, le manuel que j'avais en troisième, qui avait été écrit par cet historien qui était professeur à la Sorbonne à l'époque, qui est mort depuis longtemps maintenant, qui s'appelait Victor Lucien Tapier. Manuel, il disait pas grand-chose. Il disait, voilà, il y a eu un conflit en 1630 entre Richelieu et Marie de Médicis, la reine-mère de Louis XIII, et la reine-mère a voulu faire pression sur son fils pour se débarrasser de celui qui était son principal, ou premier ministre, si on veut. Donc, le cardinal de Richelieu, et cette affaire s'est réglée dans une scène mémorable, un affrontement où la reine-mère Marie de Médicis essaie de persuader son fils dans une crise de colère et de jalousie, et coup de théâtre, Richelieu arrive et retourne la situation. Et alors, bon, alors journée peut-être, mais les dupes, c'était quoi les dupes ? Il y a une petite ligne dans ce manuel qui disait que les dupes, c'était les courtisans qui ont cru que Marie de Médicis avait gagné, qui ont afflué au palais du Luxembourg où elle habitait. Et en fait, ils ont été dupés parce que c'est Richelieu qui a gagné. Alors voilà, ça c'est ce qu'on trouvait en 10 lignes dans ce manuel. Et bon, j'enseigne l'histoire depuis longtemps maintenant. Je suppose être chercheur. La surprise de voir que cette interprétation, quand même très sommaire, bon, ma foi, elle était dans tous les, je ne vais pas citer de nom, mais tous les livres. Sur la période plus ou moins savant, parfois très savant, reprenait cette histoire. Et tout ça me paraissait un peu bizarre. Je me suis dit qu'il fallait quand même regarder d'un peu plus près. C'est vraiment le non-journée des dupes qui était le mobile du désir d'aller regarder. Et alors, chercher, comme vous l'avez dit, j'ai découvert que journée des dupes, ce n'était pas une appellation d'historien, je ne sais pas quoi, c'était un bon mot de cours. C'était un bon mot de cours de ce type qui s'appelait Bautru, et qui était une sorte de spécialiste du bon mot. Par ailleurs, c'était un diplomate, pas du tout un plaisantin.
Il faisait métier des bons mots.
Il faisait métier à la cour, en tout cas, qui est un lieu où le bon mot avait une fonction pour se poser dans des réseaux de relations. Il faisait métier de bon mot. Il a fait important. Un bon mot. Sur ce jour-là, il a dit c'était la journée des dupes. Et tout le monde reprend ça. Voilà, donc c'est une appellation qui naît en quelque sorte dans l'action, mais...
Et qui a traversé les siècles.
Qui a traversé les siècles, mais qui a une fonction à l'époque. Bautru était un proche de Richelieu, et c'était une manière de qualifier les adversaires politiques du cardinal de Richelieu comme des nuls, quoi, comme des nuls et non avenus. Alors voilà, ça c'était la première chose. Puis je me suis aperçu que cette fameuse scène de Luxembourg, qu'on trouve aussi chez Alexandre Dumas, que cette fameuse scène de Luxembourg, il n'y avait pas grand-chose pour être sûr, premièrement, qu'elle avait bien eu lieu, et deuxièmement,
qu'il n'y avait pas de témoin.
Qu'elle s'était passée comme cela. Il n'y avait pas de témoin. Il y avait des mémorialistes qui, en général, ont écrit 20 ans, 30 ans après les faits, qui ont repris les uns les autres les mêmes choses.
Le père de Saint-Simon.
Et voilà. Et alors, la seule chose, c'était sur laquelle s'appuie encore dans la collection qui est encore diffusée, je crois, d'ailleurs, la collection de Gallimard, qui s'appelle « 30 journées qui ont fait la France ». Il y avait un livre de Georges Mongrédien, qui s'appelle « La journée des dupes », qui s'appelle toujours « La journée des dupes », et qui reprend la version de Saint-Simon, disant que Saint-Simon, donc, mémorialiste, a expliqué que son père était là, et que son père a tout vu, et que c'est son père qui a sauvé la mise à Richelieu au moment où il allait être disgracié. Sauf que quand on y regarde d'un peu près. Le mémorialiste Saint-Simon a une très, très grande différence d'âge avec son père, qu'il a eu très, très tard. Et c'est un jeune adolescent qui aurait entendu cette version dans la bouche d'un grand vieillard et qui, lui-même, plus de 45 ans après, aurait écrit ce récit de son père. Et en fait, quand on regarde le récit de Saint-Simon, on s'aperçoit qu'il démarque, qu'il est très proche, en fait, de ce qu'a écrit un historien italien qui est Vittorio Siri, et que donc tout ça n'est pas très solide ni très clair. La question se posait de savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est la question que vous m'avez posée. Et la seule chose dont on est sûr, c'est que, quel que soit le déroulement du scénario, le soir du 11 novembre 1630, il y a eu une réunion à Versailles du Conseil du roi. Versailles était à l'époque pas du tout le château qu'on connaît maintenant, un petit pavillon de chasse. Et que lors de cette réunion, un certain nombre de décisions ont été prises qui consistaient à remodeler complètement le dispositif de pouvoir, à faire arrêter celui qui était le personnage principal dans ce dispositif, c'était le garde des Sceaux, Michel de Maria, qui était à la fois ministre de la Justice. C'est-à-dire que c'est une fonction qui est, on dit en général le garde des Sceaux, c'est le ministre de la Justice, parce que c'est les termes qui sont, mais qui était beaucoup plus importante qu'elle n'est maintenant. C'était à la fois le ministre de la Justice, le premier magistrat du royaume, le porte-parole du roi, le premier censeur,
etc. Considérable.
Personnage considérable dans le fonctionnement de l'État. Et donc de faire arrêter ce personnage, de faire arrêter le demi-frère de ce personnage, qui était le chef de l'armée qui combattait en Italie, et révoquer un certain nombre de gens très importants dans le fonctionnement de l'État, de les remplacer immédiatement par d'autres. Donc c'est ce que, dans le langage de l'époque, on appelle un coup d'État. Le coup d'État, ce n'était pas, comme pour nous, le pronunciamento, comme on dit, mais c'est ce qu'on appelait un coup d'État. C'était une action préparée dans le secret et qui éclatait comme un coup de tonnerre, si on peut dire, de la part du pouvoir, en l'occurrence du pouvoir monarchique. Ça, c'est le coup d'État du roi. Et alors, cette réorganisation assez complète du pouvoir d'État entraîne évidemment des changements, des modifications de tous ordres. Pas tellement dans la politique suivie, c'est ça qui est étonnant, mais des changements dans les rapports entre les forces qui sont présentes dans le royaume, les clans aristocratiques qui, au fond, se disputent sur le terrain la réalité du pouvoir, qui mobilisent les richesses du royaume, qui profitent des redistributions fiscales, etc., etc. Alors, cette observation conduisait à deux choses. Premièrement, à essayer de comprendre pourquoi on avait construit cette affaire de la journée des dupes à partir de l'idée d'une grande scène passionnelle. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin des passions ? Et comment ces passions sont-elles construites par les historiens pour rendre compte de cet événement, d'une part ?
Et par quoi elle était précédée ?
Et par quoi j'étais précédé, et d'autre part, de comprendre ce que c'était que ce dispositif de pouvoir, comment ça marchait, et d'essayer de comprendre est-ce qu'il y avait vraiment une alternative politique ou pas, et quels étaient les enjeux de cette éventuelle alternative politique.
Mais tout ça a été précédé par la disgrâce de Richelieu. Par rapport à la reine.
Voilà. Enfin, alors, ça aussi, c'est un élément très, très
important. Ça a été l'élément déterminant. Et il ne faut pas oublier que la situation entre toutes ces personnes sont des situations pyramidales de clientélisme des uns et des autres. Vous pouvez nous expliquer un peu.
Alors voilà, c'est une donnée
c'est ce qui
fondamentale.
Relie.
Si on ne tient pas compte de ça, on ne comprend rien au XVIIe siècle. D'abord, je dois dire une chose, c'est qu'il y a un historien qui est décédé aussi, qui s'appelait Pierre Chevalier, qui a montré qu'en fait, cette journée des dupes, il y avait eu deux jours, en réalité. Bon, il n'a pas vraiment déployé ce qui s'était passé dans ces deux jours, mais il a observé à partir des dépêches, en particulier d'ambassadeurs envoyés à leur gouvernement, qu'il y avait eu une première action le dimanche 10 novembre, suivi d'une deuxième, le samedi 10 novembre, suivi d'une deuxième le dimanche 11 novembre. Donc, soit le lundi, je ne sais plus. Enfin, bon. Le 10 et le 11 novembre, en tout cas.
C'est le 10 et le 11.
Voilà. Et à partir de là, bon, j'ai essayé de réfléchir à ça, et je me suis aperçu que le 10 novembre, s'était passé quelque chose que, en général, on ne voyait pas, alors que c'était évident. Vous savez, il y a l'histoire de la nouvelle d'Edgar Poe, qui s'appelle « La lettre volée », où, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une lettre que tout le monde recherche, et en fait, on ne la trouve pas, c'est parce qu'elle est sous les yeux de tout le monde. Et il y a quelque chose un peu comme ça. À savoir que tout le monde disait que la reine-mère avait expulsé Richelieu de sa maison. Et évidemment, ce qui se passait, c'est qu'on rejoignait les deux dates. Alors on disait voilà, et puis elle a fait pression pour qu'il quitte le gouvernement.
Ce qui aurait pu être une catastrophe pour Richelieu.
Voilà.
Alors, la ruine assurée.
Effectivement. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que la reine-mère a disgracié Richelieu, ce qui est un mot extrêmement fort à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Richelieu occupait une position absolument centrale dans la maison de la reine-mère. Les grands personnages, le roi, la reine-mère qui avait été régente du royaume, les princes du sang avaient ce qu'on appelait une maison constituée, comme une maison royale actuellement en Angleterre, avec des gens qui travaillent là, des budgets, etc.
Et des profits considérables.
Et Richelieu contrôlait les finances de la maison de la reine-mère. Il en était le surintendant. Il contrôlait les finances. Il contrôlait toutes les nominations des officiers de la maison. Et il contrôlait les rétributions matérielles ou symboliques, les honneurs, etc. Donc c'était une position clé dans cette maison royale. Et alors Richelieu avait fait toute sa carrière, jusqu'au moment où il est devenu cardinal, dans l'ombre de la reine-mère, qui l'a protégé constamment, qui a favorisé sa carrière, qui a favorisé l'essor incroyable de sa fortune. Bon.
Et, au moment de la remise de la barrette, il, officiellement, devant tout le monde,
voilà, il proclame
son attachement, sa fidélité, en disant que cette pourpre, je vous la dois.
C'est ça. Et de fait, il la lui devait.
Il la lui doit.
Et c'est la reine-mère qui contribué beaucoup à son entrée, une fois qu'il a été cardinal, au Conseil du roi. Donc, on peut dire, pour faire simple, que c'est la reine-mère qui a fait sa carrière. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que vous prononciez le mot de clientèle. Alors aujourd'hui, quand on parle de clientélisme, c'est très péjoratif. Bon, voilà, on constate que ça peut exister au milieu politique ou ailleurs, mais c'est très péjoratif. À l'époque, enfin, quand on analyse cette époque, plutôt, ce terme de clientélisme désigne des pratiques sociales qui sont le fondement de l'organisation sociale dans les milieux des dominants. C'est-à-dire les liens dans des réseaux d'entraide, de rétribution, de protection,
c'était le patronage,
c'était absolument le fonctionnement normal des rapports sociaux à l'époque. Il n'y avait aucune notion d'être l'homme de quelqu'un, le dépendre d'un autre, ça n'était pas du tout péjoratif, ça pouvait être au contraire
un élément
de fierté. Alors, il se trouve que ce jour-là, donc ce 10 novembre, la reine-mère décide d'expulser Richelieu et sa famille, parce que les liens de famille se répandent partout dans l'activité, par exemple, dans cette maison royale. Et donc décide d'expulser les Richelieu de sa maison. Et c'est un calcul politique qui consiste à penser qu'il va y avoir un effet boule de neige de cette disgrâce et que Richelieu ne pourra plus tenir le coup comme ministre étant disgracié, ce qui est quelque chose de vraiment infamant. Il faut avoir vraiment commis une faute grave ou être c'est vraiment, le mot, c'est infamant. Or, cela n'advient pas. Et le lendemain, au contraire, ce qui advient, on le voit à cette réunion à Versailles le soir, c'est que Richelieu gagne. Et ce qui entraîne un fait assez extraordinaire, que pour compenser l'effet de cette disgrâce, il va falloir combler absolument Richelieu de grâce inouïe pour effacer le stigmate de la disgrâce. Et très vite, dans les jours qui viennent, Richelieu devient duc et pair du royaume, obtient des fonctions extraordinaires, l'ordre du Saint-Esprit, etc. Et le roi, on va dire, compense complètement jusqu'à l'effacer le stigmate de la disgrâce de Marie de Médicis.
Et il n'y avait que le roi pour le faire.
Et il n'y avait que le roi qui était en position de le faire. Et on peut dire Marie de Médicis, et on dit Marie de Médicis est un homme, tous ceux qui étaient autour d'elle. Sentait un réseau, un groupe de pression, des clans, si, ils perdent. La question est-ce qu'on peut ramener ça à un conflit passionnel, jalousie, etc. Je ne crois pas, peut-être tout à l'heure, je vais essayer de dire un mot sur l'histoire, la psychologie de l'histoire, parce que ça me paraît important,
mais non,
là, je vais en rester sur le terrain politique. L'organisation du pouvoir, donc je disais, les liens de clientèle, c'est une dimension fondamentale, et en particulier la capacité pour quelqu'un qui est au centre de l'appareil du pouvoir à mobiliser des clans aristocratiques est déterminante. Parce que c'est là qu'est la réalité du pouvoir, de la puissance économique, très au-delà de ce qu'on avait imaginé d'ailleurs. Il y a des études qui ont été faites, enfin, il y a déjà quelques temps maintenant, qui montrent à quel point la grande noblesse terrienne profitait de la redistribution fiscale et occupait une position essentielle de prêteur d'argent à l'État par l'intermédiaire de financiers, les fameux financiers. Bon. Et la grande noblesse a la puissance militaire. Est capable de mobiliser des hommes, de lever des armées, bon, qui fout. Faire concurrence à l'armée royale, dans laquelle ils ont par ailleurs une présence. Et on avait vu ça, il y a eu un affrontement après l'assassinat de Concini en 1617.
Qui avait marché les esprits.
Voilà, on trouve ça aussi chez Alexandre Dumas. Bon, après l'assassinat de Concini, il y a eu un conflit armé entre Marie de Médicis et son fils, ou les groupes qui étaient autour d'eux, et la mobilisation de la haute aristocratie a été, à ce moment-là, comme à tant d'autres moments, absolument, absolument essentielle. Et il se trouve que Marie de Médicis avait comme soutien et entretenait des liens très forts avec un clan aristocratique très puissant qui était la Maison de Lorraine. Et la branche Guise de la Maison de Lorraine, vous savez, les fameux Guises des guerres de religion, etc., ben, ils sont encore là, ils sont encore très puissants. Et ils sont les alliés, au sens très fort, de Marie de Médicis. Et il se passe une chose qui n'a pas été souvent observée, c'est que le cardinal de Richelieu, dont la puissance s'est augmentée, peu de temps avant la journée des dupes, lui conclut, c'est pas des articles qu'on signe naturellement, mais se rapproche beaucoup d'un autre clan aristocratique qui est le prince de Condé. Le prince de Condé était un personnage qui avait tout à fait été marginalisé à la fin du règne d'Henri IV.
Alors, je le connaissais, je ne savais pas du tout.
C'est le père du grand Condé.
M'avait complètement échappé.
Alors, mais ça a échappé, vous savez, à beaucoup de monde. Parce que donc, Condé avait dû s'exiler du règne d'Henri IV, avait été tout à fait marginalisé, avait perdu une partie de sa fortune. Et puis, progressivement, il revient. Il se refait, comme on dit. Hein. Il retrouve peu à peu ses prérogatives, son pouvoir, sa richesse. Et un des calculs politiques de Richelieu, c'est de se rapprocher de cet homme. Et il conclut une alliance. Oui, disons, il conclut une alliance qui va être un élément d'abord stable jusqu'à la mort de Richelieu et absolument essentiel pour la construction. L'assise du pouvoir de Richelieu. C'est un élément absolument déterminant. Or, les Condés, c'était des ennemis des Guises. Et ils étaient en concurrence sur tout un tas de terrains. Et des ennemis de Marie de Médicis. Ce qui donne un sens différent à l'initiative de Marie de Médicis, qui est non pas une, je crois, interprétation, non pas une attaque proférée contre Richelieu pour s'en débarrasser, mais c'est. C'était un ultime recours défensif de quelqu'un dont le socle du pouvoir était en train de s'effriter comme du sable. Et elle tente un coup politique, non pas simplement par une humeur jalouse, mais parce qu'il y a un calcul politique qui est le sien et des gens qui sont autour d'elle, qui est, dans une perspective, encore une fois, défensive à l'égard de cette progression et de cette alliance nouvelle tout à fait essentielle. Voilà, elle tente et elle perd. J'ai tendance à penser que sa perte, bon, voilà, elle tente une opération politique qui ne réussit pas, que cette perte est probablement lié à une préparation, une anticipation de ce qui allait se passer et que la journée des dupes, on ne pourra pas le prouver, mais peut être interprétée comme un piège tendu à la fois à Marie Médicis, à ceux qui l'entourent, de la part de Richelieu et du roi, tout à fait d'accord sur ce plan-là. Pour se débarrasser d'un, pour évacuer le problème et la force et la puissance d'un certain nombre de gens qu'il voulait écarter.
Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont tombés dans le piège. Enfin, oui. Les différents pièges tendus, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Quoique du côté vis-à-vis de Richelieu. Les cabales et consorts ont été nombreuses et variées, quand même. Il s'est quand même cru, comme sur la liste des gens qui devaient être éliminés, comme Buckingham et consorts, à un moment donné.
Alors, évidemment, c'est il est toujours facile de dire, après coup, que, bah oui, bon, ils ont perdu, comment est-ce qu'ils ont pu tomber dans ces pièges, etc. Les pièges étaient habiles, et comme souvent dans les conflits politiques majeurs qui se nouent dans le lieu du pouvoir d'État, ben, il y a des moments de fragilité, les gens jouent leur partie, et puis, voilà, certains gagnent et d'autres perdent. Alors, peut-être je voulais vous jouer que le temps passe.
Il y a une chose que... Alors, j'ai découverte, parce que, comme on est à Bordeaux, vous avez quand même consacré une partie de votre ouvrage sur le conflit Épernon-Sourdis. Alors ça, il faut que vous nous expliquiez un peu l'origine et comment ça s'est passé.
Oui. Alors, un mot là-dessus, effectivement, d'autant plus que ça se passe. J'allais dire ici même.
Ça se passe dans le quartier, bien sûr.
Le château du duc d'Épernon était sur la petite place, ça s'appelle toujours la place Pupola.
Pupola, qui est là derrière. Oui.
Voilà. Et qui n'existe plus, mais on est dans le lieu. Alors, Henri de Sourdis était archevêque de Bordeaux. Et le duc d'Épernon était le gouverneur de la province. Et le cardinal de Richelieu entretenait des relations difficiles et de conflits avec Épernon depuis longtemps. Et Henri de Sourdis était son homme. On parlait de lien de clientèle, voilà. Typiquement un client de Richelieu. Client. Et ce que j'essaie de montrer dans ce chapitre, c'est que Richelieu utilise Sourdis comme un peu comme au billard pour se débarrasser d'Épernon il y a une série de provocations de conflits locaux entre l'archevêque et le gouverneur qui se terminent mal sur devant la cathédrale Saint-André puisque des coups sont échangés. Et à partir de là,
c'est ça qui me des coups de poing.
Oui, des coups.
L'autre qui l'excommunie.
Voilà. Et à partir de ce moment-là, chacun va utiliser ses armes. Sourdis a des armes spirituelles. Il va excommunier le duc d'Épernon. Il y a un conflit qui se noue avec des écrits, avec des rapports qui sont adressés au roi, etc. Et peu à peu, le duc d'Épernon s'enfonce dans une situation où le pouvoir royal ne peut que le désavouer. Et cela se termine très mal pour lui, puisqu'il est, il est exilé de la province, il doit faire amende honorable, il doit recevoir son pardon des mains de d'Arrigue Sourdis.
Des mains de Sourdis, voilà. Habillé de gris, vous nous dites, et agenouillé devant, devant Sourdis, demandant pardon.
Et alors ça, c'est un autre exemple de comment on élimine quelqu'un qu'on n'a pas sous la main, qu'on ne peut pas atteindre par des moyens habituels. Et Pernon restait beaucoup dans son gouvernement, entre Bordeaux, le château de Cadillac. Et il a été extrêmement riche, extrêmement puissant. Il possédait toute une partie de la région. Et il était colonel général de l'infanterie, ça veut dire général en chef de toutes les troupes d'infanterie dans le royaume. Alors il fallait aller le chercher dans son territoire, et c'est cette opération que je décris dans ce chapitre, qui est une opération qui se passe
à Étonnant, quand même. C'est étonnant. C'est, cette manœuvre de derrière les fagots, quand même, c'est quand même extraordinaire. Bien,
je voulais dire deux petites choses.
Oui. Le grand orage.
Ah oui, alors, le grand orage, ça, c'est une appellation aussi, oui, de l'époque, qui élargit la focale, comme on dit. C'est-à-dire qui saisit a posteriori, non pas un jour qu'il y a un journal des dupes, mais toute une séquence. Mmh. Qui, c'est une expression qui a été reprise par les historiens, mais qui figure d'abord dans un livre bizarre qui s'appelle précisément Journal que Monseigneur le Cardinal de Richelieu a fait pendant le grand orage de la cour, et qui est censé être issu des papiers de Richelieu, et qui a été publié à Paris pendant la Fronde, donc 20 ans plus tard. Et là apparaît donc cette appellation grand orage pour désigner quelque chose qui bascule un certain jour, mais pour qualifier la séquence de crise politique majeure. Alors les deux choses que je oui, voulais dire avant d'arrêter en quelque oui, sorte en conclusion. La première chose, c'est que dans ce livre, il y a modestement, à chacun à son échelle, on peut être content des découvertes qu'on fait. Il y a malgré tout une petite découverte. Mmh. C'est-à-dire que consacrer un chapitre à un manuscrit qui n'avait pas beaucoup intéressé, qui est dans la Bibliothèque nationale à Paris, et qui en fait est un texte écrit par Michel de Marillac, donc la victime de Richelieu. C'est donc la parole du vaincu. Et j'ai travaillé de près ce manuscrit, observé un certain nombre de choses. La première, c'est la présence du passé et de l'histoire comme mobile, qui explique des positions. Alors, on voit surgir dans l'histoire d'un conflit autour d'un jour, une histoire beaucoup plus longue, qui nous ramène aux guerres de religion et à la Ligue, où, dans laquelle Marillac et ses proches ont tenu une position de militantisme politique. Alors, ce rapport au passé et à la question de l'oubli du passé pour agir est une question qui m'intéresse beaucoup et qui était très présente dans ce texte. L'autre chose qu'il y a dans ce texte, c'est qu'il y a une sorte de description psychologique de Richelieu. Alors, et c'est là j'en viens, puis je vais dire ça rapidement, à cette question de la psychologie. Vous voyez, quand on évoque la journée des dupes, en général, il y a des descriptions. J'évoquais le nom de Tapier, qui en a donné une comme ça dans un autre livre un peu délirante. Il y a des descriptions de Marie de Médicis, grosse femme rouge, saisie par la colère, qui couvre le Richelieu
d'injures,
les yeux injectés de sang, etc. Aucun élément ne permet de dire ça. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'on pourrait comprendre les motifs, les comportements des hommes et des femmes du passé à partir d'une grille simple qu'on connaît tous, qui est celle des passions humaines, qui est une grille psychologique, comme si on sait tous ce que c'est, la colère, la jalousie, la méchanceté, l'emportement, je ne sais pas quoi. On peut multiplier comme ça les choses. Et donc, on dit Marie-Nécisse est jalouse, elle est en colère, et on croit comprendre en tout cas ce que ça veut dire. Or, il y a une histoire des émotions. Et à cette époque-là, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, la colère est une émotion de roi. C'est-à-dire qu'évidemment, il peut y avoir des gens probablement qui se mettent en colère dans la rue quand ils se battent, Mais l'expression publique de la colère n'est admissible que chez les grands personnages, et en particulier chez le souverain. Et la colère du souverain est un événement. Donc, on ne sait pas si Marie de Médicis est en colère, mais en tout cas, s'il y a eu colère, cette colère prend un sens par rapport à, on peut dire, l'économie des émotions à l'époque. Et considérer qu'une colère de souverain au XVIIe siècle, c'est comme la colère que je peux avoir, je ne sais pas si quelqu'un me bouscule en sortant de cette librairie, que Dieu ne plaise, et, on se trompe, parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire des émotions, il y a une histoire des sentiments. Ce qui rend d'autant plus attentif à des portraits qu'on peut dire psychologiques, avec un terme anachronique, que, par exemple, fait Marillac de Richelieu. Avec une grille d'interprétation des émotions et des passions qui sont celles de son époque. Et pour Marillac, Richelieu, c'est un homme, alors là, c'est les mots qu'il emploie, qui est d'une dextérité intellectuelle extraordinaire, d'une part, et qui est d'autre part en proie aux ombres de la mélancolie. Et ce qui fait son pouvoir, c'est le lien, ou c'est l'association, dans ses conduites, de cette dextérité et de cette mélancolie. Alors évidemment, il utilise cette grille pour dénoncer Richelieu et montrer que c'est un bas tacticien et que c'est parce que c'est un personnage méphitique, en quelque sorte, qu'il a eu cette emprise en particulier sur le roi. Alors vous voyez, là, on rejoint au fond une interprétation romantique, Alexandre Dumas. Mais de Louis XIII, dans les mains de Richelieu, etc. Mais, en fait, on aurait tort de superposer ces deux interprétations qui sont faites dans des termes et avec une pensée de ce que c'est que l'esprit humain complètement différente. Alors, voilà. Alors, un mot encore pour dire que quand on présente cette affaire de la journée des dupes, en général, on explique que Richelieu, c'est la raison d'État, et que ses adversaires, ils n'avaient pas le sens de la nation, ils voulaient conclure tout de suite la paix avec l'Espagne à n'importe quel prix, que c'était des dévots qui étaient donc enfermés dans leurs obsessions religieuses et qui n'avaient pas la force de penser réellement les intérêts politiques du royaume, etc. Bon. Or, du point de vue de la raison, Marillac est absolument un homme politique qui agit avec sa raison tout comme Richelieu. C'est-à-dire qu'il est tout aussi absolutiste que lui. Il propose des réformes du royaume qui sont tout aussi centralisatrices que celles de Richelieu. Et il y a sur ce plan-là une grande proximité sur les moyens d'action et la conception même de l'action dans le royaume. Alors, ceci étant dit, il y a évidemment des divergences profondes sur les moyens et sur l'interprétation du rapport entre l'action politique et le salut spirituel des hommes et des femmes. Et Marillac appartient à un groupe qui pense qu'on ne peut pas séparer la conscience religieuse de la conscience politique et qu'il faut trouver des moyens d'accommoder l'une et l'autre, y compris dans des actions étatistes violentes, alors que Richelieu considère qu'on peut séparer ce qui relève de la conscience et ce qui relève de ce qu'on appelle à l'époque la prudence, c'est-à-dire un calcul déboîté de la question du salut dans l'au-delà. Et en particulier, déboîté de la question du salut dans l'au-delà pour les agents de l'État, c'est-à-dire considérant que le cœur du pouvoir d'État assume le péché de la violence d'État dans une perspective chrétienne. Et que, de ce fait-là, tous ceux qui sont en position d'obéir n'ont pas à se poser de problème de conscience. Et ça, c'est une frontière très importante entre la position de ceux qu'on appelle les dévots et la position de Richelieu. Et je vous livre, pour terminer, une phrase qui est probablement... Alors, il y a un grand doute sur les phrases qui seraient ou qui ne seraient pas de Richelieu. Ce qui, on n'est jamais sûr qu'il a vraiment écrit ce qu'on dit qu'il a écrit, etc. Bon. Mais dans les papiers de Richelieu, on trouve cette phrase qui est une sorte de réflexion, mais d'autres réflexions, qui est la suivante, qui est « Le salut de l'État est présent ou nul ?» Autrement dit, la politique humaine dans la conduite des affaires se règle ici-bas, dans l'ici et le maintenant, et pas par rapport à une perspective d'éternité, même si le Richelieu, cardinal de l'Église romaine, a évidemment des convictions chrétiennes très fortes, défend la religion catholique avec beaucoup d'énergie et parfois de violence, mais pour lui, ce sont deux sphères séparées.
Je pense que vous avez très bien conclu. Merci beaucoup, Christian Jouot. Merci infiniment.